Nous allons commencer la prochaine séance. Nous avons le plaisir d'accueillir à Paris Dominique Urvois. En fait, nous accueillons Dominique et Marie-Thérèse Urvois à Paris, qui sont deux grandes figures de l'islamologie française. C'est un plaisir pour nous. Et donc, ils ont déjà écrit plusieurs ouvrages concernant le Coran. Enfin, leur bibliographie est longue, mais notamment des ouvrages sur l'action psychologique du Coran et sur le miracle coranique dont on a déjà parlé ce matin. Mais comme le temps est court, donc nous allons passer tout de suite à l'exposé de Dominique Urvois.
Je ne vais pas vous parler de texte, d'abord parce que je ne suis pas compétent, et puis ensuite parce que le sujet est plutôt de l'ordre, je dirais, de la psychologie sociale. Le problème que je vais traiter va ressortir justement du contexte du texte que je vais très brièvement analyser. Je ne serai pas long. Je partirai d'un passage du grand recueil d'études d'histoire des religions d'Ibn Hazm, Al-Fisal, Fil-Milal, Wal-Ahwa, Wal-Nihal. Les solutions décisives sur les religions, les sectes et les écoles. C'est un texte qui a été écrit entre les années 420 et 440 de l'Hégire, c'est-à-dire 1029 et 1048 de notre ère. Et dans ce texte, Ibn Hazm consacre toute une section à l'étude critique du christianisme et il conclut cette section par l'examen et la réfutation d'objections faites à l'islam par les chrétiens de son temps, au moins les chrétiens qu'il connaît. Les deux premières objections faites par ceux-ci sont traitées séparément, et elles portent sur des questions théologiques, à savoir l'interprétation de versets coraniques pris isolément, mais les cinq autres objections envisagées ensemble sont de l'ordre de la critique textuelle. Il s'agit là en effet de la question de l'authenticité de la transmission du Coran, du Naql al-Quran, question qui est suscitée par les divergences de lecture, les qira'at, divergences donc que les critiques présentent comme extrêmes. Ils parlent de Ashad al-Ikhtilaf. Et ces objections sont de cinq ordres. Premier ordre parle de l'ajout de nombreuses lettres, huruf kathira, par certains, ajouts qui sont rejetés par certains autres. Deuxième objection, selon des chaînes de transmission reçues par les musulmans comme d'une extrême justesse, asanid indakum fi hayat asira, des groupes de compagnons, des groupes, bien, on emploie l'expression tawaif, des groupes, vraiment, ce n'est pas des individus, de compagnons du prophète et de leurs suivants qui ont transmis l'islam, lisaient le Coran avec des lettres ajoutées et changées. Bi alfaz zahida wa mubadala. Et que ces ajouts, ces changements, ne sont plus admis à l'époque où parle Ibn Hazm. Troisième objection, c'est la référence au recueil d'Ibn Masoud, qui, disaient ces gens, étaient différents du recueil officiel. Quatrième objection, c'est des groupes, on parle toujours de tawaif, des groupes d'ouléma qui font autorité, affirment que le calife Othman invalida de nombreuses lectures authentiques et les supprima de sa recension, laquelle est faite d'après une seule harf parmi les sept selon lesquelles, pour les musulmans, le Coran a été révélé. Et cinquième objection, c'est le cas des chiites rafidites qui estiment que les compagnons du prophète ont altéré le Coran par suppression et ajout. Donc ce qui est intéressant, parce que nous sommes là au XIe siècle de notre ère, 5e siècle de l'Hégire, bien sûr ces objections sont plus rudimentaires que ce que permettent nos investigations modernes, mais elles n'en sont pas moins, quant au fond, identiques à notre problématique actuelle. Peut-on envisager qu'un texte soit à la fois révélé et multiforme? Et donc, il convient d'essayer de comprendre comment la psychologie islamique s'est organisée pour leur résister à travers les siècles. On a parlé ce matin, plus ou moins indirectement, de l'attitude à l'intérieur même de la communauté islamique. Là, il s'agit d'une discussion avec des non-musulmans. Et donc, je vais essayer de voir comment la réponse d'Ibn Hazm peut contribuer à comprendre un peu l'architecture mentale des musulmans pour répondre justement à des objections venues de l'extérieur à ce niveau-là. D'abord, à première vue, l'argumentation d'Ibn Hazm est très classique. La première objection, celle qui parle des nombreuses lettres ajoutées, des lectures différentes, ne désigne pas une divergence, mais au contraire, dit-il, un accord authentique. Ittifaq Sahih. Car toutes les diverses lettres et lectures remontent aux prophètes sur lesquels elles sont descendues, restant elles-mêmes inaltérées au cours des transmissions. Pour la seconde objection, celle des chaînes de transmission qui parlent de groupes de compagnons du prophète qui seraient intervenus en quelque sorte, elle dit ce que dit Ibn Hazm dit, cette objection effectivement est vraie, mais les compagnons du prophète, après tout, bien sûr, on a beaucoup de vénération pour eux, mais on les considère comme infaillibles uniquement dans ce qu'ils transmettent des faits et gestes du prophète, et pas du tout sur leurs opinions personnelles, et par conséquent, ce qu'ils ont pu refaire comme variante, eh bien, ce ne sont que des conjectures, j'emploie le terme wahab, ce sont que des conjectures individuelles. Sur l'objection fondée sur le Mushaf d'Ibn Mas'ud, Ibn Hazm affirme que, de toute façon, le Coran d'Ibn Mas'ud, ce n'est autre chose que la lecture dite de Hasim, on peut toujours discuter de ça, et que, bien évidemment, la lecture de Hasim est l'une des sept lectures descendues d'après de Dieu, et donc elle est tout à fait canonique. Pour la quatrième objection à propos de l'intervention de Osman, Ibn Hazm considère qu'elle ne repose que sur une opinion particulière, un zan, de certains, opinion qui ne tient pas si l'on considère qu'avant même qu'Osman devint calife, le texte coranique s'était répandu dans tout le Proche-Orient et que son action n'a donc pu avoir d'autre but que de donner des espèces d'exemplaires de référence pour éviter toute altération malveillante. Et il ajoute que de toute façon, ça n'a pas empêché que les sept lectures continuent d'être connues et transmises par tradition. Enfin, la dernière objection, elle est balayée par l'affirmation que les rafidites, de toute façon, pour lui, ne sont pas des musulmans, ils appartiennent à des sectes, des firaks, apparus 25 ans après la mort du prophète. En bref, on peut dire que deux des problèmes posés, le premier et le troisième, sont réduits à la question de l'admission des sept lectures canoniques du texte coranique et que les trois autres sont tout simplement éliminés. L'élimination la plus radicale est pour la cinquième, avec l'exclusion pure et simple des rafidites de l'islam. Pour la quatrième, il ne s'agirait qu'une opinion d'un zan, l'opinion sans fondement. Pour la seconde objection, Ibn Hazm admet le fait invoqué, mais refuse qu'on puisse en tirer la conséquence avancée. La question semble donc simple, on reste à l'intérieur de ce qui est dit de façon habituelle à l'intérieur du monde islamique. Seulement, le problème, c'est que nous ne sommes pas à l'intérieur du monde islamique, il parle à des non-musulmans, il doit répondre à des non-musulmans, et donc tout le problème, ça va être celui-ci, essayer de répondre à cette objection venue de l'extérieur. Et donc, le cadre de la discussion conditionne le choix des démarches. Les références coraniques précises ont figuré dans la discussion théologique parce que ce sont les chrétiens eux-mêmes qui les ont introduites dans la critique du texte, où nous sommes maintenant. En revanche, ils ne parlent que de ce qui s'est passé après la révélation. Et ils s'en tiennent à des questions concernant la diffusion du texte lui-même. Ibn Hazm est donc en principe obligé de s'en tenir à cela. Et de fait, dans son développement, on pourrait avoir un peu l'impression que toute référence religieuse interne à l'islam est exclue, et notamment, bien sûr, il n'y a pas la fameuse citation du verset du hadith des sept Ahouf. Par contre, Ibn Hazm va exploiter à fond le fait que les contradicteurs se sont appuyés sur les témoignages de musulmans eux-mêmes. Il peut ainsi à la fois reconnaître tel de ces témoignages quand il s'estime en mesure d'en neutraliser l'implication, implication en tout cas supposée par l'adversaire, et il peut invoquer d'autres témoignages en faveur de sa propre position. Les diverses lectures coraniques sont reçues selon des transmissions suffisantes, binakl al-kawaf, elles sont connues et transmises par tradition, mashhura ou marsura. Le texte des exemplaires du Coran de Osman, qu'il diffusa à titre de référentiel, était l'objet d'un accord unanime, d'un ijma. Cet appui sur l'histoire devient même l'argument essentiel d'Ibn Hazm dans sa réponse à l'évocation des Rafidites, laquelle réponse devient un long tableau des débuts de l'islam, présenté comme absolument homogène et attaché à un Coran inaltéré. Si bien que le développement en réponse à la cinquième objection est presque le double de celui consacré aux quatre autres ensemble. Comme la question est seulement celle de l'authenticité de la transmission du Coran, Ibn Hazm aurait très bien pu s'en tenir là. Mais s'il a manifestement voulu se tenir sur le terrain de ses adversaires, il est allé plus loin en plaçant le point d'ancrage de son argumentation historique, basée sur les chaînes de témoignages, dans l'origine présupposée du texte coranique, à savoir le Tanzil, la descente du texte dans sa littéralité sur le prophète. Or, le Tanzil est la forme spécifiquement islamique de la révélation. Sans qu'il soit insisté sur les implications théologiques de ce Tanzil, Ibn Hazm n'en est pas moins amené à l'évoquer à deux reprises, car cela rentre dans la nette séparation qu'il a marquée dans l'héritage spirituel des compagnons du prophète et des suivants, entre ce qui est indiscutable, c'est-à-dire donc les lectures coraniques du texte, et d'autre part leurs témoignages sur les faits et gestes du prophète. Et puis, il y a aussi, donc, ce qui est discutable, les opinions qui ne relèvent que d'eux. Et là, d'ailleurs, Ibn Hazm amorce un développement polémique supplémentaire avec les chrétiens, parce que ceux-ci sont accusés, par lui, de s'en tenir à ce deuxième niveau. On peut penser également que c'est aussi le bloc historiographique islamique lui-même qui a poussé Ibn Hazm à faire ce pas supplémentaire. Déjà un siècle avant lui, l'ancien mutakallim Abu Issa al-Warraq avait dénoncé le leurre que constitue le ilm al-rijal, la science des hommes, c'est-à-dire l'examen des membres des chaînes de transmetteurs de tradition, pour savoir s'ils étaient dignes de confiance ou bien s'ils étaient d'une mémoire faible. Alors que dit alors que le plus important, dit-il, c'est le premier maillon de cette chaîne. Et là, sur ce point, Ibn Hazm s'était contenté de l'attitude fidéiste courante en affirmant le caractère absolument indiscutable du témoignage des compagnons et suivants, d'au moins ceux qui sont à l'origine donc de tel ou tel isnad. Mais l'historiographie islamique elle-même permettait de remonter au-delà d'eux jusqu'au prophète en personne, avec le souvenir du secrétaire de la Révélation, Abdallah ben Abissar, qui avait été scandalisé, nous dit-on, après avoir constaté l'acceptation par Muhammad d'une certaine labilité du texte coranique et ce qui l'avait conduit à apostasier, ce qui serait à l'origine de la décision plus tard d'Ibn Mujahid, appuyé sur le pouvoir abbasside, de donner un statut de révélation à certaines variantes dans la Révélation. Dans cette polémique, nous avons donc face à face deux démarches distinctes. Du côté des objecteurs, ce sont des arguments purement factuels. Ceux-ci peuvent être éventuellement contestés, mais ils ne relèvent que de ce qu'on pourrait appeler l'ordre logico-expérimental. De son côté, Ibn Hazm insiste sur l'argumentation historique, fort de pouvoir rebondir ainsi sur celle de l'adversaire. Mais il le fait très lourdement, cela devient un petit peu suspect, et en effet, son argumentation, quand on vient de le voir, dépasse l'expérience au niveau du point de départ des chaînes invoquées, dans l'affirmation du Tanzil. Nous avons là, de façon caractéristique, ce que le sociologue Vilfredo Pareto désignait comme une pensée pseudo-logico-expérimentale et dont il a montré le rôle prépondérant dans la réalité humaine. Voyons par exemple la phrase clé de la réponse au premier problème, celui qui, d'invocation des diverses lectures, des ajouts de lettres. Toutes ces lettres, je cite, « toutes ces lettres et ces lectures remontent selon des transmissions suffisantes aux prophètes de Dieu sur qui elles sont toutes descendues. Et quelle que soit celle de ces lectures que nous suivons, elle est authentique, tout entière contenue, maintenue, connue, marsoura, madouta, marlouma, sans ajout en elle ni diminution. » Je crois qu'ici aussi l'expression est révélatrice de la démarche. Le premier segment avance un argument factuel, les transmissions, et aurait pu s'arrêter après le mot « prophète de Dieu ». Mais ce mot a une charge émotionnelle qui contraint Ibn Hazm à faire intervenir un élément supplémentaire qui est le Tanzil. Or, le Tanzil dépasse l'expérience. Aussi se précipite-t-il, c'est très caractéristique, le deuxième segment de la phrase est tout à fait caractéristique de ce besoin de compenser en quelque sorte ce glissement, se précipite-t-il dans le second segment à multiplier les qualificatifs du texte pour renforcer le sentiment qu'on est bien dans l'ordre du logico-expérimental. Il s'agit clairement de présenter les traits d'une bonne démonstration, bien qu'en même temps, ce ne soit pas une véritable démonstration. On pourrait dire évidemment que la foi au Tanzil est une donnée d'expérience pour le musulman, mais c'est une expérience subjective d'une toute autre nature que l'évocation de chaînes de témoins. Une telle expérience de foi est exclue dans le cadre de discussions avec des non-musulmans, car non transmissible en dehors de sa communauté. Aussi l'insistance de notre auteur sur le fait qu'il donne des preuves, burhan, claires comme le soleil, kamshams, sans ambiguïté pour quiconque, la ashkal fihi ala ahad midanas, apparaît plutôt comme une espèce de prospectus à usage interne pour sa propre communauté. Et effectivement, le chapitre qui est placé immédiatement à la suite de celui que nous venons de considérer est consacré à la description comparative des 6 formes de transmission présentes en islam pour montrer l'infériorité du judaïsme et du christianisme en chacune de ces formes. Or, ici aussi, on constate un glissement. Ibn Hazm invoque en premier le témoignage de, je cite, « les gens du Mashrek et du Maghreb, d'après leur rapport génération par génération, en quoi ne diffèrent ni musulmans, ni infidèles équitables et ne résistant pas à l'évidence. Kafir munsif ghayr muannid lil mushahada. » Qui ne résiste pas à l'évidence à propos de l'apparition de l'islam et de la diffusion de ses rites et prescriptions. Et là, à ce moment-là, il inclut subrepticement, je cite, les signes, les ayats, donc du prophète, tels que la lune fendue, l'invitation aux juifs d'oser désirer la mort et le reste de ce qui se trouve dans le texte du Coran, le Nas du Coran, lu et transmis oralement, makro wa mankoul. Et à nouveau, là aussi, Ibn Hazm se rend un peu compte qu'il a débordé et il cherche à compenser ce dépassement en insistant très longuement sur la minutie de la science de critique du hadith, les deux seules autres formes de transmission qu'admettent tous les musulmans, et en renchérissant sur le rigorisme du zahirisme, qui est sa propre doctrine, qui exclut 3 autres formes plus laxistes, admises par une partie des musulmans, pour finalement finir sur un bref bilan de ce qui fait l'unanimité parmi eux. Ici, il ne fait plus référence au Tanzil, mais uniquement au phénomène historique de la conversion convergente de tribus les plus diverses et souvent ennemies entre elles, convaincues par les signes, les ayats du prophète et ses miracles, ses mu'jizat. un long passage apologétique sur les qualités humaines de Mohammed aboutit à la conclusion qu'elle prouve son caractère de prophète. Donc, si vous voulez, ce que l'on peut dire, tirer de tout ceci, c'est donc que nous avons un auteur qui, au 5e siècle de l'Égypte, 11e siècle de notre ère, est conscient qu'il y a chez des non-musulmans, il ne parle pas de ce qui s'est passé à l'intérieur de la communauté islamique, là il est en confrontation avec des gens de l'extérieur, et il se rend compte que ces non-musulmans ont conscience d'un certain nombre de difficultés concernant la transmission du texte coranique, et donc il place cela dans la bouche de chrétiens, et il entend les récuser en conclusion d'une réfutation générale du christianisme. Sur ce point particulier, ici, il prétend se placer sur le même terrain de factualité historique que ses adversaires, ce qu'il fait en se référant systématiquement à la pratique islamique des chaînes de transmetteurs, voire en insistant sur le caractère très élaboré de la discipline de critique de celle-ci et sur leur appartenance en propre à l'islam. Mais à plusieurs reprises, nous avons vu qu'il déborde la démonstration logico-empirique par l'introduction de présupposés théologiques, aboutissant ainsi à donc, ce que j'ai appelé, à la suite de Pareto, une démonstration pseudo-logico-expérimentale, c'est-à-dire une analyse qui prétend ne s'appuyer que sur des faits, mais qui en réalité dépasse l'expérience. Donc finalement, ce que l'on peut conclure, c'est qu'effectivement, il y a erreur d'Ibn Hazm sur le plan logique, mais ce qu'il faut voir, par contre, c'est que son œuvre, à ce moment-là, en tout cas, sur ce plan-là, a été une grande réussite sur le plan, je dirais, sociologique. Car avec lui, la communauté islamique a pensé disposer d'une démonstration rigoureuse. Ce qui correspond effectivement, comme le disait Pareto, à la raison d'être et à la force des théories pseudo-logico-expérimentales. La pseudo-démonstration d'Ibn Hazm conflue avec la conviction générale que l'islam est une religion rationnelle et renforce cette conviction, avec pour son auteur un effet de retour, car alors que l'œuvre d'Ibn Hazm a été longtemps marginalisée jusqu'au début du XXe siècle, dans le monde islamique, tout simplement parce qu'il était adepte du zahirisme, que le zahirisme n'a jamais eu d'implantation officielle, si je puis dire, et même Ibn Khaldoun raconte qu'il y a eu des moments même où l'on avait franchement interdit l'enseignement de cette doctrine, que l'on avait brûlé certaines œuvres, etc., etc. Donc tout ceci, toute l'œuvre d'Ibn Hazm jusqu'à une période récente, était marginalisé, sauf cet aspect-là de son œuvre, sauf l'aspect polémique, et en particulier de la polémique contre le christianisme. Cet aspect de l'œuvre d'Ibn Hazm a toujours joui, et elle continue d'ailleurs de jouir, dans les milieux traditionnels, d'une grande notoriété. Je vous remercie.